Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc cet après-midi pour la deuxième semaine, on donne la parole à des étudiantes et étudiants de l'UTC pour présenter les travaux qu'ils ont réalisés donc dans le cadre du cours WE1 Écrire sur le web, donc donné à l'UTC. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on fait en WE1? On découvre rapidement les technologies du web, donc un peu de HTML, de HTTP, de comment fonctionnent les serveurs. On fait un petit peu de théorie du numérique, raison computationnelle, on en reparlera un petit peu plus tard. On fait un peu de méthodo, notamment découverte des méthodes agiles, et puis principalement sur la dernière partie du cours, eh bien on aborde des enjeux comme l'éthique, l'économie ou les différents usages autour du numérique. Donc les étudiants et étudiantes ont travaillé ce semestre en groupe sur un sujet qu'ils ont mis en ligne sur un site web. Donc on pourra y retrouver des fiches de lecture, des interviews, un article. Et aujourd'hui, donc ils vont nous présenter un par un. On aura 4 groupes en tout. Eh bien, une synthèse de leurs travaux. Ici à la radio. Alors on aura tout à l'heure, on parlera ingénieur et vie numérique. Ensuite avec Audrey, design éthique pour les médias sociaux et pratiques de modération sur les médias sociaux. Mais pour le premier groupe, nous avons donc ici dans le studio Cassandre Prin. Bonjour Cassandre.
Bonjour.
Et oui, j'active les micros. Sixtine Gaillot. Bonjour Sixtine.
Bonjour.
Louis Joachim, bonjour Louis.
Bonjour à tous.
Et Léonie Henry, bonjour Léonie.
Bonjour.
Voilà, donc eh bien, vous allez nous parler capitalisme de surveillance et surveillance du web. Et Cassandre, si tu es prête, je te laisse introduire le plan de l'émission que vous avez préparé et démarré.
Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de la surveillance du web. Nous nous demanderons plus particulièrement s'il faut craindre les conséquences futures et actuelles des pratiques de la surveillance du web, ou encore s'il est facile de nous affranchir de cette surveillance sans impacter notre quotidien. Je vous parlerai dans un premier temps de l'omniprésence du numérique, qui est un phénomène qui facilite la surveillance du web. Puis Sixtine vous parlera et explicitera les éventuelles conséquences du ramassage des données. Louis enchaînera en discutant de l'apparition d'une nouvelle forme de capitalisme grâce aux nouvelles technologies. Et enfin, Léonie abordera la question du détachement de la surveillance en se demandant si cela est vraiment possible. Ces dernières années, la surveillance sur le web a été facilitée par le développement sans précédent du numérique. On estime qu'un Français, en une semaine, passera 2 à 3 jours à scruter l'écran de son téléphone, à envoyer des messages, regarder des vidéos, à partager sa vie sur les réseaux sociaux. Et c'est la collecte de toutes ces données qui caractérise la surveillance. Olivier Tesquet, auteur du livre « À la trace » publié en 2019 aux éditions Maison Parallèle, décrit d'ailleurs cette surveillance comme un système à la fois envahissant et invisible, intrusif et indiscernable. Lorsque nous naviguons sur le web, tout est bon pour récupérer le maximum de nos informations. Archivage des historiques des sites visités, enregistrement de géolocalisation, analyse de l'activité sur les réseaux sociaux. Et ce sont ce qu'on appelle les courtiers en données qui vont collecter, stocker et organiser les données avant de les revendre aux entreprises pour, par exemple, mettre en place un ciblage publicitaire ou pour servir à des campagnes d'influence politique lors d'élections présidentielles, par exemple. Ce sont principalement les gouvernements et des entreprises comme Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qu'on surnomme aussi les GAFAM du côté américain, ou encore Baidu ou Alibaba du côté chinois, qui vont exploiter ces données. Vous allez maintenant entendre un extrait d'un podcast de France Culture où Zoé Sfez, une chroniqueuse et productrice pour France Culture, reçoit Jacques Priol, auteur du livre Le Big Data des territoires, publié en 2017 aux éditions FIP, où ils vont discuter des nouvelles stratégies de la donnée au service de l'intérêt général par les collectivités locales.
Il m'arrive, lorsque je rencontre des élus aujourd'hui, dans une autre configuration, dans le travail d'accompagnement que je fais maintenant auprès de collectivités locales, de leur dire, vous savez, monsieur le maire, Google en sait plus que vous sur ce que font et ce que sont vos habitants. Et c'est souvent vrai, parce qu'aujourd'hui, par tous ces outils, tous ces systèmes qu'on appelle le big data de façon générale, eh bien, on a une masse d'informations disponibles sur la manière dont les gens se déplacent, sur la manière dont ils consomment, entre guillemets, de la culture, dont ils consomment tout court aussi leurs courses, leurs achats, etc., bien sûr. Et c'est très intéressant de voir que ces données aujourd'hui peuvent être pour une part utile à l'intérêt général, pour une part seulement. Beaucoup de ces données sont collectées pour nous placer de la publicité, pour nous vendre des produits, mais pour une part, ces données ont un intérêt pour ceux qui sont en responsabilité de la chose publique.
Pour en revenir à notre thème de la surveillance du web, il est important de différencier la récolte des données qui se fait avec authentification et sans authentification, soit la récolte des données personnelles ou des données impersonnelles. Les données personnelles correspondent aux données d'identification des personnes telles que l'adresse IP, qui sert à identifier la localisation d'un appareil réseau, ou encore l'adresse MAC, qui va constituer en quelque sorte la carte d'identité de l'appareil. Au contraire, les données impersonnelles correspondent à l'ensemble des données plus techniques, comme par exemple la date des visites d'un site, la durée de la consultation, les mots-clés qui ont été entrés. Sans authentification, ces données peuvent être collectées sans pour autant être liées à un profil. Elles pourront par exemple servir à des fins statistiques. Avec une authentification, on désigne cette collecte comme une forme de profilage, c'est-à-dire que les données personnelles collectées vont permettre d'établir un fidèle portrait numérique de chaque individu. Par exemple, lorsqu'on navigue sur Instagram via un compte qu'on a créé, les publications qui nous sont proposées ne sont rien d'autre que le fruit de la récolte de nos données. Il s'agit en effet d'un algorithme qui a analysé les publications récemment aimées et ou partagées et qui fait en sorte d'en proposer des similaires. Sans cette authentification, on va plutôt parler d'alter ego numérique. Par exemple, faire une recherche via un moteur de recherche sans y être authentifié contribuera au développement de cet alter ego sans pour autant être relié à une quelconque identité. Si l'ambition du profilage est d'établir un clone numérique pour personnaliser une offre, celle de l'alter ego numérique est plutôt d'anticiper la demande de l'ego. En quelque sorte, le profilage va s'adapter à l'individu, alors que l'alter ego numérique va plutôt adapter l'individu à l'offre. Cependant, il ne faut pas croire que sans authentification, on ne peut pas être identifié. En effet, avec les données identifiées peuvent être recoupées avec des données authentifiées, justement pour permettre de les identifier. Et c'est d'ailleurs l'un des points qu'abordera Sixtine.
Merci beaucoup Cassandre de cette introduction. Alors je sais que dans le groupe vous avez lu le livre Surveillance de Tristan Nito, publié aux éditions CF Édition en 2016. Vous avez même interviewé l'auteur récemment. Alors dans ce livre, il donne de nombreux conseils pour limiter les prises en quelque sorte à la surveillance numérique. Est-ce que par hasard, il y a un de ces conseils qui t'a particulièrement touché, intéressé, que tu as commencé à appliquer ou que tu envisages d'appliquer dans le futur?
Alors, Tristan Nito donne en effet de nombreux conseils, certains qui sont applicables à notre échelle, certains qui ne le sont pas. Personnellement, parmi les conseils qu'il a cités, il y en a quelques-uns que j'applique déjà, comme par exemple utiliser des navigateurs de recherche, des navigateurs qui ne récupèrent pas des données personnelles, qui sont des logiciels libres et à but non lucratif, comme Firefox. En revanche, l'un des conseils qu'il donne est d'éviter d'utiliser le moteur de recherche Google. Or, aujourd'hui, c'est quand même le moteur de recherche que j'utilise majoritairement. Et il est largement envisageable pour moi de modifier cette habitude et d'utiliser un autre navigateur de recherche, comme par exemple Quant ou alors Ecosia. Il donne également un conseil assez intéressant et important à appliquer, qui est celui d'éviter Gmail, puisqu'ils peuvent, en utilisant Gmail, avoir accès à nos mails et récupérer les pièces jointes qu'on communique aux autres. Et donc, il serait préférable de passer par d'autres outils, tout simplement, ou, dans le pire des cas, d'utiliser des outils qui vont permettre de chiffrer nos mails et donc qui vont les rendre moins accessibles. Et on pourrait même étendre ce chiffrement des mails au chiffrement des messages qu'on partage sur les réseaux sociaux, avec nos amis, durant nos communications, ce qui permettra aussi d'éviter la récolte de nos données dans le cas des réseaux sociaux. Ou alors, si vraiment on est déterminé, on peut décider de complètement quitter les réseaux sociaux classiques, traditionnels, comme Instagram, Facebook, ce genre de choses, pour passer complètement à autre chose et utiliser des réseaux sociaux plus propres, entre guillemets, comme ceux proposés par Mastodon. Mais pareil, c'est une solution que pour l'instant, je ne suis pas prête à appliquer, en tout cas pas entièrement, peut-être partiellement, pourquoi pas, parce que j'estime que ces réseaux sociaux comme Mastodon ne sont pas assez répandus, donc il n'y a pas assez d'utilisateurs, et il n'y a pas forcément le même contenu que sur les réseaux sociaux plus traditionnels.
Ok, bah merci de cette réponse très circonstanciée. Alors sur Mastodon, tu trouveras néanmoins des utilisateurs et des utilisatrices très intéressants et très intéressantes. Je peux te le dire, voilà, je te l'annonce d'avance. Et puis voilà, bah merci de tous ces éléments. Et puis si les autres participants à l'émission veulent ajouter des choses à un moment autour de ces questions, eh bien maintenant ou non, ok, donc ou un petit peu plus tard, on pourra le faire. Eh bien Sixtine, je vais maintenant te passer la parole pour nous parler donc de ce que tu as appelé le ramassage, la collecte des données et les conséquences associées.
Dans cette partie de l'émission sur la surveillance du web, je vais vous présenter les conséquences dues au ramassage des données. Nous avons en effet vu dans la première partie de cette émission qui collecte les données et pourquoi ils le font. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment se fait la collecte des données et quelles sont les conséquences liées à celle-ci. Dans un premier temps, il est nécessaire de vous expliquer comment les données numériques sont récoltées. Les deux principaux moyens de collecter les données sont via les cookies et via un profil. Le cookie est un petit fichier texte enregistré sur l'ordinateur d'un internaute lorsqu'il visite une page web. Les pages visitées ou les recherches effectuées sur un site peuvent être enregistrées via ce cookie puis exploitées pour proposer des annonces publicitaires ciblées. Ce sont les données plus comportementales qui sont récoltées par les cookies. Elles permettent de créer un alter ego numérique, comme a pu l'expliquer Cassandre juste avant moi. Ensuite, les données peuvent être collectées via un profil, lors de la création d'un compte pour accéder aux services d'un site. Les données plus personnelles sont alors récoltées et permettent de créer un profilage. Finalement, les données sont récoltées en permanence sur Internet, mais en fonction de la présence ou non d'authentification, les données récupérées ne seront pas les mêmes et elles ne seront pas utilisées pour la même chose. Il est aussi important de noter le fait qu'en acceptant les cookies, on accepte que certaines données soient collectées. Les données rendent possible l'identification de certains utilisateurs, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de différence entre un utilisateur authentifié ou non. Ainsi, il est important de retenir que naviguer sur des sites web sans être authentifié ne signifie pas qu'il est impossible d'être identifié. Nous allons maintenant écouter un extrait d'une vidéo nommée « C'est quoi le Big Data ?» publiée sur YouTube en novembre 2020 par Daki, une chaîne YouTube française qui aborde différentes thématiques autour du numérique.
Mais pourquoi avoir toutes ces informations? Eh bien, c'est très simple. Ces informations bien étudiées, analysées et utilisées grâce aux statistiques et maintenant aux algorithmes de machine learning ou apprentissage automatisé s'avèrent très puissantes, pouvant aller jusqu'à totalement comprendre le comportement humain ou faire des prédictions. L'information est l'oxygène des temps modernes. Ces données peuvent permettre de gagner des élections présidentielles. Trump et Obama ont officiellement dit avoir eu recours au Big Data pour leurs élections. Les chaînes de restaurants utilisent le Big Data pour prédire le nombre de clients qu'ils vont faire, par exemple s'ils ouvrent un nouveau restaurant à un endroit particulier, et calculent en avance sa rentabilité. Des sociétés d'assurance utilisent maintenant le Big Data pour mieux connaître leurs assurés, et vont même parfois offrir des ristournes si vous marchez un certain nombre de pas par jour et enregistrez la donnée. D'autres proposent une ristourne si vous avez une maison connectée. Des banques vérifient les profils avant d'accorder des prêts. Le Big Data et la récolte de données est présent dans tous les milieux.
Dans la première partie de l'émission, vous avez pu comprendre qu'il est nécessaire de différencier les données qui sont collectées avec authentification et sans authentification. Cette différenciation des données qui sont collectées provoque alors une différenciation des conséquences du ramassage de ces données et de leur utilisation. Je vais commencer par vous parler des conséquences du ramassage des données dans le cas d'une authentification. Le premier exemple que je peux vous donner est celui de l'utilisation de ces données dans le cadre juridique. En 2016, les données d'activité physique collectées par un podomètre ont été utilisées comme pièce à conviction dans le cadre d'un procès pour accuser son propre utilisateur. Le deuxième exemple que je peux vous donner est que les données privées des utilisateurs peuvent être dévoilées n'importe quand et sans leur accord. Par exemple, en 2014, il y a eu le scandale Celebgate où certaines célébrités ont vu leurs photos confidentielles publiées sur Internet sans avoir donné leur consentement. Ensuite, les entreprises peuvent arriver à diriger et manipuler la réalité par l'intermédiaire du web. En effet, en opérant une surveillance du web, en contrôlant les données de ses utilisateurs, l'entreprise peut arriver à les influencer et cette influence peut impacter directement la réalité. Par exemple, en 2016, il y a eu le scandale de Cambridge Analytica qui a dévoilé que cette entreprise analysait les données de dizaines de millions d'utilisateurs dans le but d'intervenir et d'influencer l'opinion publique lors des campagnes présidentielles américaines de 2016. Après avoir vu les conséquences du ramassage des données dans le cadre d'une authentification, je vais maintenant vous expliquer les conséquences de la collecte des données sans authentification. Dans le cadre de l'usage du numérique sans authentification, le rapport à la collecte des données est différent. Les conséquences sont a priori bien moins importantes. J'insiste sur le a priori, puisque si les données collectées sont recoupées avec des profils, alors le problème redevient similaire à celui initial, à celui de la collecte des données avec authentification. Ensuite, lors d'un ramassage des données sans authentification, ce sont les données plus comportementales qui sont récoltées et qui sont utilisées à des fins statistiques ou publicitaires. Cela provoque le fait que les conséquences du ramassage des données sans authentification peuvent être même encore plus importantes que celles du ramassage des données qui se font en s'authentifiant. Puisque dans le cas de la surveillance publicitaire, ce sont les données comportementales qui sont récoltées et ces données sont bien plus fines et plus précises que celles fournies dans un profil. Un dernier exemple que je pourrais vous donner pour vous exposer les dangers du numérique serait que récemment, des groupes anti-avortement ont utilisé la revente des données personnelles pour cibler et harceler les femmes souhaitant recourir ou ayant recouru à l'IVG. Ici, nous voyons par cet exemple qu'après la revente et le recoupage, la récolte des données aurait comme conséquence d'aggraver les risques de la surveillance sociopolitique.
Merci beaucoup pour cette seconde partie. Alors en fait, j'ai envie de te poser un petit peu la même question que j'ai posée précédemment à Cassandre. Est-ce que de ton côté, encore une fois, en relation ou pas avec la lecture des ouvrages que vous avez eus en WE1, ou peut-être des cours qu'on a fait, hein, on a parlé de surveillance aujourd'hui, est-ce que y a des modifications que tu as déjà commencé à apporter dans ton usage du numérique, hein, tu as parlé toi-même là à l'instant des dangers du numérique, ou que tu envisages dans le futur, que ce soit pour limiter la collecte des données, le pouvoir donné aux entreprises qui les gèrent. Voilà. Est-ce que tu as des éléments complémentaires de ton côté ?
Je pense que, premièrement, le fait d'avoir pu travailler sur le sujet de la surveillance du web nous a permis d'apprendre énormément de choses et donc de prendre conscience de tous les risques qui nous entourent lors de l'usage du numérique. En travaillant sur les conséquences liées au ramassage des données, j'ai pu identifier les impacts personnels ainsi que les sources de risques et les menaces réalisables. J'ai ensuite pu réfléchir aux différentes mesures existantes qui permettent de traiter chaque risque, que cela soit par un contrôle d'accès, un contrôle de sauvegarde, un contrôle de traçabilité ou par le chiffrement. Pour sécuriser plus efficacement mes données personnelles, j'envisage de faire plusieurs choses. Premièrement, comme j'ai commencé à le faire il y a quelques années, c'est d'utiliser des logiciels plus libres. Donc j'utilise par exemple Firefox comme navigateur de recherche, mais j'utilise encore Chrome, donc, qui est dépendant de Google, et qui, comme a pu l'expliquer Cassandre juste avant nous, pas très bon.
Exerce plus de surveillance.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais après, en faisant des recherches, j'ai pu découvrir qu'il y avait d'autres navigateurs, des logiciels libres comme Brave, par exemple, qui est un navigateur privé qui bloque par défaut les publicités et qui peut être assez intéressant à utiliser. Ensuite, il est possible d'ajouter des extensions à son navigateur, des adblockers, des antitraceurs comme Ghostory, par exemple, qui permettent de bloquer les pistages sur certains sites. Il est également possible de limiter directement les publicités et les cookies en allant dans les paramètres de son navigateur. Ainsi, on limite la récolte de ses données personnelles. Ensuite, j'envisage de vider plus régulièrement le cache de mon téléphone et de l'ordinateur pour limiter les cookies. Et finalement, j'envisagerais d'utiliser des connecteurs multicomptes pour conserver de manière séparée les différents aspects de ma vie numérique et limiter la centralisation de mes données. Par exemple avec Firefox Multi-Account. Et finalement, pour limiter la récolte des données qui se fait par les médias sociaux, j'envisage de lire plus régulièrement les conditions générales d'utilisation des différents réseaux que j'utilise pour ensuite aller modifier dans les paramètres et faire plus attention à restreindre l'accès de mes données et de mes informations personnelles à mes amis et désactiver les publicités en fonction de mes centres d'intérêt. Et toutes ces modifications permettent alors de limiter la collecte de mes données, ce qui permettrait donc de limiter le pouvoir des entreprises qui les gèrent, puisque j'empêcherai alors la centralisation liée à la récolte de mes données personnellement.
Ok, bah merci de ces éléments. Je cite également une autre extension Navigator Firefox qui fonctionne très bien pour le blocage du tracking. C'est uBlock Origin. Mais j'en profite également pour te poser une seconde question qui est posée par Emma sur le Mattermost que l'on utilise donc dans le cadre du cours et qui va bien justement avec l'idée d'utiliser des bloqueurs. Emma nous demande si le fait de limiter la collecte des données, alors notamment par authentification, mais tu as cité d'autres exemples, en tout cas si le fait de limiter la collecte des données risque de nous faire passer à côté de certaines informations pertinentes sur le web. Et je vous ai expliqué en cours que j'utilisais uBlock Origin dans une version assez rigoureuse, assez restrictive, et que effectivement, de facto, ça limitait mon accès à certains sites. Alors, est-ce que toi, dans les usages là que tu as commencé à mener, est-ce que tu as déjà noté à certains moments effectivement le fait qu'il y avait des choses que tu ne pouvais plus utiliser, ou peut-être également, comme tu as évoqué, le fait de modifier des paramètres dans les médias sociaux? Est-ce que à un moment, ça te conduit ou ça te conduira à devoir renoncer à accéder à certaines informations?
Oui, en effet, par exemple, dans les médias sociaux et les réseaux sociaux, le fait de limiter la publication liée au centre d'intérêt, ça peut être un aspect négatif également, puisqu'au final, on va avoir des publicités qui vont se faire sur énormément de produits et qui vont plus forcément être pertinents. Mais là, alors, il faut se poser la question de ce qui nous intéresse vraiment. Est-ce que c'est plutôt de faire attention à la récolte de nos données personnelles, ou alors si on veut plus facilement avoir des informations qui nous correspondent, la question qui se pose ici, c'est donc de savoir ce qui nous intéresse vraiment et voilà.
Oui, il y a c'est ce que tu as évoqué. Hein, il y a et ce qui est également évoqué par la question d'Emma, c'est à un moment on a peut-être certaines de nos usages qui peuvent devenir moins pratiques en quelque sorte, hein, moins adaptés. À partir du moment où on va faire attention à la collecte de données. Hein, c'est ce que tu nous as très bien expliqué. Merci beaucoup à toi, Sixtine. Et puis donc on va passer la parole à Louis pour la troisième partie. Louis, tu vas nous parler de l'apparition d'une nouvelle forme de capitalisme grâce au développement des nouvelles technologies. Alors j'espère que tu as été attentif en cours parce que c'était le sujet d'aujourd'hui. Donc on va voir ce que tu vas être capable de récupérer. Non, je plaisante, vas-y, lance-toi.
Tout à fait, avec l'insertion des nouvelles technologies dans notre quotidien, il y a une nouvelle ère du capitalisme qui s'est ouverte, une ère où les entreprises cherchent par tous les moyens à connaître, à prévoir et à modifier les comportements des individus pour en tirer un maximum d'informations, très souvent à des fins publicitaires. Or, cette nouvelle forme de capitalisme se remarque également par une manipulation gouvernementale dans certains pays comme en Chine. En effet, dans certaines villes chinoises, des systèmes de traitement statistique sont mis en place pour alimenter les systèmes de crédits sociaux. Cependant, pour la grande majorité des Occidentaux, ce ne sont que des processus que l'on voit à la télévision ou dans des séries comme Black Mirror, qui est une série de science-fiction, qui vise la mise en évidence des conséquences que pourraient avoir les nouvelles technologies et comment ces dernières influent sur la nature humaine. Par exemple, dans l'épisode Chute libre de la saison 3, l'histoire se déroule dans un monde où chaque personne note les autres de 0 à 5, les mieux notés ayant accès à de meilleurs services. Ainsi, les gens se montrent pour une grande majorité extrêmement polis et recherchent constamment à obtenir l'approbation générale pour avoir la meilleure note possible sur leur profil. Red Mirror, publié aux éditions CEF en 2020, est un ouvrage de Simone Pieriani qui montre que la Chine est en train de devenir le leader mondial dans les domaines aussi cruciaux que ceux de la recherche scientifique, du développement des nouvelles technologies comme les intelligences artificielles ou la 5G, de l'urbanisation avec le développement des villes dites du futur et de l'éducation. Dans ce livre, l'auteur dit que nous vivons dans un monde où les données personnelles sont devenues la véritable richesse de notre époque. Ainsi, une importante entrave à la vie privée semble inévitable dans un futur plus ou moins proche. Or, ce ne sont là encore pas les seules conséquences imaginables. On peut par exemple imaginer une application web du système de crédit social chinois où des services sont restreints aux personnes ne respectant pas les règles imposées, interdiction de prendre l'avion ou le train par exemple. Cela pourrait s'envisager dans des services de réservation en ligne ou de commandes sur certains sites, par exemple l'interdiction d'utiliser des plateformes comme Amazon ou Vinted. Une ébauche de ces processus est déjà en place sur la plateforme de streaming Twitch avec des systèmes de bannissement qui peuvent être permanents en cas d'actes déplacés ou de propos injurieux des utilisateurs et des streamers. En Chine, le système de crédit social est un parfait exemple de cette nouvelle forme de capitalisme. Ce dernier ne veut pas seulement réglementer les personnes, mais aussi l'environnement dans lequel elles vivent, afin d'assurer un bon vivre ensemble des populations et de créer une sorte de cohésion entre les gens. La Chine, en fait, joue beaucoup sur l'aspect sécuritaire comme une priorité pour accentuer la présence des systèmes de surveillance et donc du système de crédit social. On veut ici des populations saines dans un environnement sain. Et c'est d'ailleurs ce qui est décrit dans Red Mirror, quand l'auteur raconte ses visites dans les quartiers des villes du futur. Les quartiers sont calmes, on s'y sent à l'aise, on s'y sent protégé, pourtant la surveillance est omniprésente. Et c'est surtout pour cela que l'on s'y sent bien d'ailleurs. À l'avenir, la diffusion de ces processus à l'échelle internationale serait donc loin d'être étonnante. Et tout de suite, vous allez pouvoir entendre une intervention issue de France Culture parlant du contrôle des données en Chine.
Il est certain que pour la Chine, qui s'est dotée dès 2017 d'une loi de protection des données et qui l'a considérablement renforcée au mois de novembre 2021, le contrôle des données est une véritable stratégie d'État, autant économique que politique. Il s'agit non seulement de conserver les données du milliard d'internautes chinois sur le territoire, mais aussi d'empêcher toute entreprise étrangère de les capter, d'organiser l'opacité économique du pays et d'exploiter les collectes grâce à des programmes d'intelligence artificielle dans lesquels la Chine est en passe de devenir leader. Au bout de la chaîne économique, la bourse des données de Pékin, le Beijing International Big Data Exchange, créé en mars 2021, celle plus récente de Shanghai ou encore celle à venir de Shenzhen, qui toutes trois doivent permettre aux entreprises d'échanger leurs récoltes pour le plus grand bénéfice de la croissance nationale. Le 25 novembre dernier, premier jour d'ouverture du nouveau marché de Shanghai, l'une des premières transactions enregistrées fut l'achat des données du réseau électrique de la ville par une banque publique. Et demain, ce sera peut-être vos données, Julie. Car TikTok est à la fois le site le plus visité du monde et le réseau social qui traque le plus ses utilisateurs. Dans la guerre des données, le stratège chinois a choisi de ne pas choisir entre la défense et l'attaque.
Cet extrait nous informe donc que TikTok est le réseau social qui traque le plus ses utilisateurs. Mais en Chine, il y a également WeChat, qui est une application mobile de messagerie textuelle et vocale développée par le géant chinois Tencent Holdings Limited. L'auteur, Simone Pieriani, nous fait comprendre que l'on ne peut plus survivre dans une ville chinoise sans smartphone et surtout sans cette fameuse application WeChat, qui fonctionne un peu comme Facebook, avec des appels, des échanges de photos, de vidéos. Il y a des possibilités de faire des visioconférences, etc. Mais avec un peu plus de fonctions. En effet, il est par exemple possible avec WeChat de payer directement ses achats chez les commerçants avec son téléphone. Et il y a énormément d'autres possibilités, d'autres fonctionnalités, comme faire la manche, se marier, divorcer, etc. Et donc cet exemple, il illustre parfaitement l'apparition d'une nouvelle forme de capitalisme. Puisque tout fonctionne avec cette application, en Chine, la collecte de données est d'autant plus efficace. Et on apprend d'ailleurs que Mark Zuckerberg, donc qui est le PDG de Facebook, se penche sur le succès de cette application chinoise. Et on voit ici que le processus tend à se répandre à l'international.
Ok, bah quand ce sera le cas, je te propose, moi je te mettrai 5 sur 5 pour ton intervention, je te propose de faire pareil pour l'UV, comme ça on aura tous les deux une bonne note de crédit social, ça te va ?
C'est l'idée.
Ok. Cet accord étant conclu, je te fais passer une question de Jonathan qui te demande si on peut imaginer d'autres modèles économiques comme alternative à la collecte des données, ce qui permettrait en quelque sorte de hacker ou de bypasser le système du capitalisme de surveillance. Alors je ne sais pas si tu sais par exemple comment l'association Picassoft de l'UTC est financée, ou peut-être l'association Framasoft, ou on a évoqué Quant tout à l'heure, peut-être d'autres entreprises. Est-ce que tu as des informations sur ces exemples-là ?
Alors, on a pu interviewer Tristan Nitto récemment avec le groupe, et il me semble qu'il avait aidé au financement de collectivités comme Framasoft. Donc c'était un particulier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà.
Ouais, en effet. Donc Framasoft, c'est le financement est à 95 ou environ à 95%. C'est uniquement des dons. Exactement. Donc effectivement, c'est un fonctionnement aujourd'hui. Alors évidemment, hein, on n'est pas dans une méga entreprise comme Google, mais c'est 10 salariés, plusieurs millions d'utilisateurs, un fonctionnement qui date maintenant de plusieurs années, enfin plusieurs dizaines d'années. En tout cas, la mise en place des services doit dater de 2014, je crois. Donc on est presque à 10 ans. Et ça fonctionne uniquement avec du don. Alors, c'est peut-être modeste, mais encore une fois, c'est des modèles alternatifs. Dans le financement de Quant, alors je suis pas non plus un expert complet, hein, faudrait aller creuser un peu, mais ils arrivent à financer avec de la publicité non ciblée. Donc du coup, on est moins, en tout cas, dans des formes de surveillance. Est-ce que, alors on a évoqué, je ne sais plus si c'était toi ou l'intervention précédente, je crois que c'était la tienne, on a évoqué le bannissement de certaines plateformes comme sur Twitch. Marie-Anaïs nous demande si tu as des pistes. Est-ce que tu sais ce que met en place Twitch par exemple, ou encore une fois ça peut être d'autres plateformes, lorsque les personnes créent des nouveaux comptes en fait. C'est-à-dire que, ok, je me fais exclure d'un compte, mais après tout je peux me créer un nouveau compte, retenir des propos injurieux. Donc elle était plutôt sur ou peut-être dans j'ouvre d'autres portes hein, au cas où, mais peut-être dans Red Mirror, est-ce qu'il y a un moment on a connaissance de, est-ce que il y avait des cas relatés de personnes qui cherchent à contourner en quelque sorte la surveillance d'une façon ou d'une autre?
Alors, ce que je sais, c'est que pour les personnes qui cherchent à créer des nouveaux comptes et re-insulter les utilisateurs, les streamers, je sais qu'il y a des modérateurs qui sont en capacité de bannir à nouveau ces personnes-là. Alors, pour le coup, le filtre sera peut-être un peu moins efficace, mais il y a quand même des possibilités pour empêcher ces personnes de continuer leur pratique. Et par rapport à Red Mirror, c'est une bonne question.
Eh ben on la garde, alors on ira chercher la réponse peut-être le semestre prochain en W1, ça pourra faire l'objet d'un nouveau sujet. Je te remercie pour ton intervention, et donc on va passer la main pour la quatrième et dernière partie à Léonie, et finalement ça fait la transition avec la question que j'ai reportée, puisque tu vas nous dire si on peut se détacher de ces mécanismes de surveillance, s'il y a des moyens pour y arriver. À toi la main.
Oui, tout à fait. Alors, se détacher de la surveillance du web, est-ce vraiment possible? Alors, on a vu que la surveillance de masse a des conséquences, notamment sur notre vie privée. Donc, certaines personnes ont essayé de réfléchir à des alternatives, des solutions, pour essayer d'y échapper. En voici quelques-unes. La première solution peut être de privilégier les services et logiciels libres proposés par des projets comme celui du chaton, qui signifie collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, et qui a été initié par l'association Framasoft en 2016. Mais alors comment cela fonctionne concrètement? Ce collectif rassemble des structures proposant des services en ligne libres, éthiques et décentralisés. L'objectif de ces structures est de se passer des services proposés par les GAFAM. Ainsi, ce système permet d'accéder à des services numériques que l'on utilise très souvent et qui sont quasiment tout le temps proposés par les GAFAM. Donc il peut s'agir de logiciels de traitement de texte ou de visioconférence par exemple. Mais la différence est que les logiciels mis en place par les chatons, eux, sont respectueux de la vie privée. En effet, les membres de ce collectif s'engagent à ne pas transmettre ou exploiter nos données. Ainsi, utiliser les chatons est une bonne alternative aux GAFAM et c'est un moyen d'échapper à la surveillance de masse. De la même manière, Picassoft, qui est une association de l'UTC gérée par les étudiants et étudiantes de l'UTC, est membre du chaton et propose des services respectueux de la vie privée, de la liberté d'expression ou encore de l'environnement. Cependant, malgré ces avancées, se détacher de cette surveillance reste une tâche difficile. En effet, pour reprendre donc l'exemple du chaton, un point négatif de l'utilisation de ces logiciels est qu'ils ne sont souvent pas généralisés, c'est-à-dire utilisés par tous. Il est donc plus difficile de se connecter avec d'autres personnes, contrairement aux GAFAB qui, eux, sont utilisés et connus de tous. Pour illustrer cette volonté de créer un web plus libre et respectueux de nos vies privées, voici un court extrait d'un podcast proposé par France Culture, intitulé « Échapper à la surveillance », qui explique notamment l'engagement de Framasoft.
Le chiffrement, l'obfuscation ou la dissimulation, toutes ces techniques permettent de lutter contre les travers de la surveillance numérique. Mais elles ne remettent pas en cause fondamentalement l'existence d'un système politique ou économique qui autorise cette surveillance. Personnellement, cette situation ne me convient pas, et je me demande s'il est encore possible de penser à un autre modèle d'Internet qui ne soit pas basé sur la surveillance et l'exploitation de nos données numériques. En France, une association réfléchit activement à ces questions. Il s'agit de Framasoft. Fondée en 2001 dans le monde de l'éducation, elle rassemble aujourd'hui quelques dizaines de personnes proposant un autre monde numérique. À partir de 2014, leur campagne « Dégooglisons Internet » avait permis la création de 38 services pouvant remplacer en partie ceux de Google, Facebook ou Microsoft. Par exemple, des logiciels de traitement de texte partagés en ligne qui ressemblent à Google Drive, des agendas partagés et même un réseau social appelé Mastodon.
Ensuite, une autre solution serait de limiter la surface de contact numérique, à savoir éviter l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Alors oui, c'est assez efficace dans la mesure où, puisque l'on n'utilise pas le web et que l'on ne se crée pas de compte sur aucun réseau social, la surveillance numérique ne peut pas nous atteindre. Mais faire ce choix n'est pas sans conséquence sur notre quotidien. En effet, le numérique est ancré dans la vie d'une majorité de la population, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre plus personnel. Il est par exemple de plus en plus difficile de se passer de son ordinateur pour travailler. Donc un bon exemple peut-être de citer les ENT dans les écoles, qui montrent qu'il est quasi impossible d'échapper au numérique, puisque tout est régi par cet outil, ou presque. Dans un cadre plus personnel, on peut citer les applications de communication comme WhatsApp ou de divertissement telles qu'Instagram. Et dans la vie de tous les jours, pareil, on remarque que le numérique est omniprésent, que ce soit pour faire des courses ou pour consulter son compte en banque, on peut avoir besoin d'un smartphone. De plus, cette solution ne fait que contourner le problème que pose ce capitalisme de surveillance. En effet, ici, on est amené à modifier nos propres habitudes pour ne pas être confronté à cette surveillance, mais celle-ci continue de s'opérer pour tous ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire ce choix. Pour conclure, pour le futur, une solution envisageable est d'instaurer davantage de règles ou de lois visant à protéger la vie privée et d'arrêter d'utiliser la population pour faire du profit ou pour assouvir une envie de contrôle. On peut par exemple s'inspirer du RGPD, qui est donc le Règlement Général sur la Protection des Données. Nous savons que les nouvelles technologies vont encore se développer à l'avenir, alors il est nécessaire de bien les comprendre et de poser des limites.
Merci à toi pour cette intervention. Une première question courte de Bastien qui nous demande si, puisque tu as évoqué le RGPD, s'il est possible de demander une suppression des données. Est-ce que tu as la réponse à cette question? Est-ce qu'on peut demander à une plateforme web la suppression de ces données?
Alors, il me semble. Après, j'imagine que c'est... Vas-y.
Vas-y, tu peux compléter.
Moi, il me semble...
C'est Cassandre qui parle.
Qu'on peut demander à ce que les données soient supprimées, mais comme elles sont stockées sur des serveurs qui ne nous appartiennent pas, les propriétaires du serveur peuvent décider juste d'anonymiser les données et de les conserver quand même.
On retrouve effectivement des points qu'on a abordés, mais le cadre légal du RGPD nous offre effectivement cette possibilité. Mais comme tu le dis, ça rencontre des difficultés techniques, alors qui peuvent être effectivement éventuellement des mauvaises volontés des détenteurs de données, et même des difficultés techniques du fait qu'à un moment, les données, elles ont été partagées, diffusées, etc., comme tu l'as dit également, en partie anonymisé. Donc il peut être, l'exercice en lui-même peut être assez difficile. Peut-être une toute dernière question, il nous reste encore une minute. Et je trouve que c'est un point assez important. Léonie, tu nous as dit qu'un des points difficiles pour adopter les services alternatifs, par exemple ceux proposés par les chatons, était qu'il était plus difficile de se connecter avec les autres utilisateurs, alors que tout le monde, ou presque, est sur les grands médias sociaux. Est-ce que tu as en deux mots, tu saurais nous restituer le principe général qui est proposé par le fait divers et qui vise justement à essayer de connecter les utilisateurs de services décentralisés.
Alors oui, le Fediverse, donc c'est un univers de médias sociaux décentralisés et fédérés. Et donc ça a pour but de former un réseau décentralisé de serveurs. Ces serveurs qui hébergent des services libres de médias sociaux. Donc les médias sociaux permettent de créer les réseaux sociaux entre les personnes. Et ces serveurs utilisent des protocoles communs pour communiquer entre eux. Donc l'objectif du Fediverse, c'est de rassembler des médias sociaux décentralisés, regroupant tout un tas de réseaux sociaux afin de connecter les personnes entre elles.
Ouais, par exemple, ainsi, Cassandre tout à l'heure, ou Léonie, je me souviens plus, nous disait tout à l'heure qu'elle allait essayer d'utiliser les médias sociaux alternatifs, mais qu'on n'y trouverait pas grand monde. En tout cas, à un moment, même si tu utilises le serveur de Picassoft ou de l'April ou de Framasoft, évidemment, sur ce serveur-là, il y aura peut-être que quelques centaines ou quelques milliers de personnes, mais ce serveur pourra lui-même être connecté à d'autres serveurs en France ou d'ailleurs même partout dans le monde, et in fine, années, on peut comme ça créer des réseaux relativement importants, même si en effet, faut être honnête, et on n'atteindra pas forcément encore aujourd'hui la masse d'un Facebook ou d'un Instagram. Mais c'est peut-être qu'une question de temps. Je vous remercie à vous. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot? Eh ben, on se dit alors dans ce cas-là, au revoir et à très bientôt.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC.